Bonjour à toutes et à tous. Je me présente François Coulombe-Roson, étudiant au baccalauréat en théâtre. Le balado de Levé de Rideau se trouve en marge de la 10e édition du Festival de théâtre de l'Université Laval. Ce festival se veut une plateforme de diffusion, d'expérimentation, d'apprentissage et de partage de la création artistique. Nous vous invitons à suivre notre page Facebook dans la description afin de découvrir notre merveilleux projet. Ce balado répond à notre besoin de comprendre les rouages de la machine théâtrale au Québec. Pour y parvenir, nous voulons interroger les acteurs du milieu pour qu'ils nous offrent leur vision et leurs outils afin de mieux comprendre l'écosystème artistique à Québec. Dans ce 4e épisode, nous approfondissons l'univers du collectif de création. Maude Boutin-Saint-Pierre et Rosalie Cournoyer de Vénus à vélo nous rejoignent pour discuter des enjeux d'une jeune compagnie de création originale, l'écriture de pièces à valeur féministe et les nouveaux défis de la direction d'intimité. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Levé de rideau. Cette semaine, je reçois Vénus à vélo, un collectif qui explore la notion d'intimité. On cherche aussi à revendiquer la vulnérabilité comme une arme politique radicale. On propose aussi l'art comme un outil de réflexion sociale visant les citoyens à forger des citoyens qui sont sensibles et ouverts aux réalités des autres. Donc aujourd'hui, dans ma présence, Maude Boutin-Saint-Pierre et Rosalie Cournoyer. Nos invités aujourd'hui, les deux sont diplômés du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 2018. Donc, Maude a été directrice de production du projet Fièvre, un des projets du collectif. Ensuite, elle a été de 2015 à 2017 au Bouillon d'art multi, aux communications internes. Puis, elle a fait environ une douzaine de productions. Puis récemment, trois productions au Grand Théâtre. Donc, on a eu Alice, Cabaret et en ce moment même, Orgueil et préjugés. Rosalie, en fait, elle a été directrice de production du BAM en 2018.
C'est vrai, vous avez bien fait vos recherches, les archives du BAM.
J'ai fouillé. Ensuite, Rosalie a eu une résidence d'écriture en juillet 2021 pour le projet L'œil, et c'est là qu'elle a pu vraiment développer la construction du scénario, de ce qu'elle voulait, pas scénario, mais... De la pièce, voilà. Et voilà. Et on a aussi remporté le concours d'écriture du Conservatoire pour la pièce Verglas, qui, si j'ai bien compris, c'est une addition au texte de la délivrance. C'est comme une prémisse.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et aussi, tu es autrice et professeure au programme Entracte, donc qui aide les personnes avec des déficiences intellectuelles ou mobiles pour jouer sur scène. Voilà. Aujourd'hui, je voulais commencer par vraiment comprendre c'est quoi l'origine de la pratique artistique individuelle que vous avez. Donc vraiment, si je vous demande, tu sais, dans le jeune âge, c'était quoi vos premières créations qui ont fait, moi là, je m'en vais au théâtre, genre je vais faire du théâtre, je deviens comédienne ou une idée, quelque chose comme ça.
Avant la professionnalisation, là, comme pas nos premiers pas.
Oui, pré-professionnalisation, là.
Et moi, c'est tellement cliché, mais j'ai toujours voulu faire du théâtre depuis que je suis vraiment jeune. C'était comme quelque chose qui me faisait... Je pense que la première fois que j'ai dit ça, j'avais 6 ans. Puis vite, ça a été clair que je voulais faire une école en interprétation. Puis je pense qu'au cégep, ça s'est clarifié. J'étais au profil théâtre du cégep Limoilou, où il y a quand même des cours vraiment le fun sur l'écosystème théâtral de Québec. Puis... À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais vraiment envie de faire de la création en théâtre. Okay. Fait que oui, de faire une école en interprétation, mais c'était clair pour moi que je voulais entrer au Conservatoire de Québec pour aussi pouvoir avoir des outils en création, puis éventuellement...
Être un peu à l'arrière du décor, bien comme être...
Bien, être à la tête d'une compagnie, je pense que j'avais envie de ça. J'avais envie, mettons, de premier acte, j'avais envie de... Je ne savais pas encore à ce moment-là si c'était écrire ou mettre en scène ou comme faire de l'idéation à propos de show, mais...
Mais la création était
l'idée principale. Oui, j'avais comme envie d'avoir aussi une parole puis une posture différente que celle d'interprète.
Oui.
Fait, je pense.
Oui, puis le mot ne le mentionne pas, mais elle a été... actrice adolescente.
Oui, c'est vertigineux.
Tu avais plus jeune que beaucoup d'entre nous vécu qu'est-ce que c'est de seulement être dirigée, puis dans un cadre où il y a moins de place, disons, à l'inventivité et la création. Tu as joué dans 30 vies, c'est ça?
C'est une production très, très, très rapide. Là.
Premier rôle.
C'est ceux qui n'ont pas la référence.
Mais ce qui devait être tout à fait emballant pour une ado, mais... qui fait que tu arrives au jeune adulte puis tu l'as déjà vécu, tu sais, être connu, réussir comme interprète. Fait que J'imagine que ça t'a peut-être poussé.
Mais j'avais surtout envie de temps. T'sais, je pense que c'est pour ça que j'ai eu envie de me diriger plus vers la scène que vers l'écran. Parce que pour moi, c'est un espace très, très précieux, là, des heures de répétition qu'on a où on peut approfondir, se poser des questions collectivement.
Définir le personnage que tu es versus...
Oui, puis pourquoi on fait ça? C'est quoi le sens? Comment est-ce qu'on a envie de le faire? Puis tu sais, on y reviendra quand on parlera de Vénus, mais on se pose autant des questions artistiques que des questions sur comment est-ce qu'on a envie de structurer l'espace de travail. Fait que pour moi, ça, c'était quelque chose de central à ce que j'avais envie de faire.
Ouais.
Et toi, Rosalie?
Bien, moi, j'ai pas du tout le même parcours que Maud parce que j'ai pas eu la chance de grandir avec du théâtre autour de moi. Je viens de la Montérégie, d'un petit village. Mes parents sont agriculteurs. Fait que je pense que la première fois que j'ai vu du théâtre, c'était peut-être dans une sortie au secondaire. Donc, j'en avais pas vu enfant. Puis même quand on y allait, ben c'était la grosse sortie à la Montréal. C'était pas quelque chose de quotidien. C'était un événement.
Oui.
Puis j'avais jamais lu une pièce de théâtre avant d'arriver à mon cégep que j'ai choisi de faire en théâtre tout de même.
Wow.
Parce que je suis allée au cégep de Saint-Hyacinthe en exploration théâtrale, qui était un défi qu'on s'était donné avec mon meilleur ami de ne pas aller en sciences humaines, d'oser. Puis lui est allé en cinéma, puis moi je suis allée en théâtre. Mais tu sais, c'était irrévérencieux là, pour nous de faire ce choix-là, puis de l'assumer devant nos parents. T'sais. C'est comme, j'ai jamais fait de théâtre de tout mon secondaire, de toute ma vie, puis là, je fais mon cégep en théâtre. J'avais pas fait d'impro non plus. Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, si je repense à mes jeux d'enfant, puis à tout ça, ça a toujours été présent, cette affaire-là de faire des personnages. Mais un peu comme tous les enfants. Je me souviens, par contre, quand j'étais en deuxième année, j'avais dit à ma professeure que je voulais avoir une compagnie d'écrivaines. C'est vraiment cute, mais ma professeure m'avait dit que ça n'existait pas. Parce que, tu sais...
Just watch me.
Ouais,
je vais le faire.
Parce que j'avais une amie avec qui j'aimais bien écrire des histoires. Puis là, tu sais, moi, mon idéal, c'est ça. On allait être deux, puis on allait avoir une compagnie, parce que c'était ça que je connaissais d'être un adulte, tu sais, d'avoir le monde des affaires. Mais au final, c'était juste d'être publié dans une maison d'édition. Mais bon, ma professeure de deuxième année ne m'a pas renseigné là-dessus non plus.
Non!
Dit, ça n'existe pas, des compagnies d'écrivains. Fait que plus tard, quand... Tu sais, c'est ça aussi, c'est que vu que j'avais pas beaucoup... conscience du monde culturel artistique, c'était ce que je voyais à la télé, puis c'est très très populaire, disons les téléromans, puis ces choses-là. Quand j'ai voulu faire de l'art, la seule chose que je connaissais des métiers, c'était de jouer puis d'être interprète finalement.
Ouais.
Je pense que j'ai compris c'était quoi la mise en scène à la fin de mon cégep.
Oui, mais je pense que c'est l'actualité. Là. Tout le monde pense que c'est le comédien qui a tout fait ce qui se passe. Puis c'est comme, non, le comédien est une partie du casse-tête autour.
Puis j'avais pas beaucoup de talent plastique aussi. Fait que c'était comme, ça pouvait pas non plus être la scénographie ou... Fait que tout de suite, ça a été le jeu, mais j'ai toujours trouvé ça difficile, ce rapport-là, d'être vu puis perçu, puis ce regard-là. Fait que j'avais un intérêt, mais c'était comme encore flou. Mais j'avais certainement un talent, parce que mes professeurs m'ont encouragé à faire mes auditions dans les écoles de théâtre. Puis là, c'était encore plus irrévérencieux.
C'est la goutte.
Ouais. Puis j'ai fait mes auditions, j'ai été prise à plusieurs écoles, puis j'ai choisi Québec parce que, justement, on m'avait dit... Tu sais, il y avait cette aura-là de « si tu veux faire de la création, c'est là qu'il faut que t'ailles ». Puis je pense que j'aimais mieux cette idée-là de faire de la création puis du théâtre que de faire de la caméra, qui était plus associée aux écoles qui... à Montréal, mais c'est tout ça juste pas nécessairement vrai. Là. C'est comment je voyais le milieu, puis qu'on me l'expliquait il y a 10 ans.
Oui.
Fait que j'ai fait le stage au Conservatoire de Québec, puis j'ai trippé aussi sur l'expérience d'être dans cette ville-là, ce dépaysement-là. Fait que j'ai choisi de faire ça.
Pendant une semaine, t'as comme rencontré des nouvelles personnes, des nouveaux profs.
Puis c'est idyllique, là, d'arriver dans le vieux Québec, où c'est situé, c'est à côté du château, c'est devant le fleuve, ça a tout pour séduire.
Oui, vraiment, oui.
Ouais.
Mais tu hésitais quand même entre une autre profession.
Quelle profession?
Il y a quand même c'est très différent, mais je trouve qu'il y a quand même dans ta pratique des liens avec cette profession-là.
Oui, bien finalement, j'en ai fait des gros liens. oui, puis tu sais, moi, c'est ça, je viens d'une famille très rationnelle, puis c'est important comme la stabilité, puis...
je veux dire, ils travaillent la terre, là, donc c'est des choses qui sont là pour rester, puis c'est...
Oui,
bien... Un métier aussi flou et instable, à l'époque, c'était très insécurisant. Fait que moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir un plan B, puis c'était la pratique sage-femme. Donc, en même temps que je faisais mes auditions dans les écoles de théâtre, je faisais aussi toutes mes chimies.
Sage-femme, c'est... juste être sûr, oui. C'est l'accouchement au complet, là, genre
l'accouchement physiologique. A à Z. Physiologique. Fait que... sans intervention médicale.
Puis ça a commencé comment, juste?
Ben, je pense que jeune, j'ai toujours aimé, tu sais, genre écouter quand on passe la cigogne, puis ces affaires-là. Puis j'aimais les bébés. Puis j'étais fascinée par les femmes enceintes autour de moi. Fait que je pense que ça venait simplement de ça. Mais tu sais, j'avais genre 16 ans, puis je lisais Une naissance heureuse, qui est comme la Bible.
Wow.
Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Donc, en parallèle de faire mes auditions, je faisais mes chimies pour aller...
Pour aller là aussi. Wow! OK, fait que t'avais... Mon Dieu, tu faisais genre autant les sciences nat que le...
Ouais.
Fait que ça devait genre être comme un peu une explosion dans ton cerveau à ce moment-là.
C'était très particulier. Ça sollicite des choses très différentes, mais je crois qu'au final, il y a beaucoup de... Tu sais, de ressemblances dans... Parce que la sage-femme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle accompagne... la famille qui va bientôt accueillir l'enfant, puis qui est là. C'est aussi un travail beaucoup plus dans l'intimité, puis...
Oui. Dans l'intensité aussi.
Dans l'intensité, oui. Tu sais, de partager un moment crucial de la vie d'une famille, d'une personne.
C'est un peu le guide aussi. De si, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui n'a jamais accouché, tu le fais la première fois, le gars qui n'a aucune idée c'est quoi accoucher, puis qui est genre, comment je peux aider, genre, t'as besoin de quelqu'un pour tout
scier. Il y a de quoi qui est en lien avec la mise en scène, je trouve.
Mm-hmm.
Puis de vivre des moments d'intensité avec d'autres humains dont on se souvient, puis qui sont différents à chaque fois, à chaque naissance, chaque famille, chaque rencontre, chaque lieu, chaque chambre. Fait qu'il y a quelque chose qui me fait beaucoup penser à l'événement du spectacle puis de la représentation.
C'est un spectacle, un accouchement en tant que tel.
Et du travail d'équipe que ça nécessite, parce que les sages-femmes ne sont pas toutes seules. On pourrait croire...
Encore une fois, c'est ça. Juste... Non, il n'y a
pas... Mais non, il y a toute une équipe, puis ils sont plusieurs sages-femmes qui débarquent au moment de la venue de l'enfant. Fait qu'il y a plein de parallèles que je vois avec comment je pratique mon métier, comment j'ai choisi de le pratiquer. Je pourrais le pratiquer plus de façon solitaire, puis moi en collaboration, mais,
oui,
mais comment versus... on le fait avec Vénus, puis ça. Fait que... Mais c'est pas quelque chose que je mets de côté. Tu sais, pendant la pandémie, je me suis réinscrite au BAC, j'ai été acceptée, puis là, j'ai mes projets ont décollé, fait que j'ai...
T'as remis ça de côté.
J'ai remis ça de côté, mais...
Mais comme quoi, si le moment où tu veux y aller, t'es prête, tu sais encore quelque chose, c'est là.
Vraiment.
C'est présent, t'es prête à y aller, c'est fou. Puis là, est-ce que vous avez vécu des stages, des mentorats, des professeurs qui vous ont particulièrement marqué ou un événement comme ça qui vous a défini comme artiste? Ou créatrice?
Je pense qu'avec la compagnie, on aime beaucoup le mentorat en général. Là, c'est une forme de transmission puis de maillage intergénérationnel, pour parler en jargon de demande de subvention, qu'on aime beaucoup parce que ça nous permet, d'un, d'avoir une certaine autonomie comme jeune créatrice, mais tout en s'entourant d'une expérience puis en créant des liens avec des gens qui ont beaucoup plus de métiers derrière la cravate.
Oui.
Après, une expérience en particulier, j'ai de la misère à en cibler une, mettons, qui a été particulièrement fondatrice.
Bien, ce que j'aime du mentorat, c'est un peu aussi de choisir quelles connaissances on veut aller chercher. Puis au conservatoire, ben, tu n'as pas le choix de tes cours comme à l'université. Hein, tout le monde a le même cursus.
Oui.
Tu ne choisis pas tes professeurs. Puis, fait que... Quand on est devenu professionnel, je le voyais un peu comme ça, de « j'aime tel artiste, j'aime ce que cette personne-là fait, je veux apprendre d'elle ». J'ai eu Anne-Marie Olivier, moi, qui m'a mentoré pour l'écriture de Fièvre.
Wow.
J'ai eu Isabelle Hubert qui m'a mentoré pour La Délivrance. On a aussi collaboré avec Caroline Ross, qui est décédée il y a quelques semaines, d'ailleurs, pour l'éclairage de la lumière de l'œil.
Wow! Elle
a fait des résidences de création au Gros Bec avec Les Incomplètes.
Oh, oui!
Fait que oui, c'est comme, c'est toutes des
liens. Vous avez liens. Choisi.
On a choisi des femmes aussi.
Oui,
c'est ce qu'on a nommé, là.
Oui.
Ouais.
Puis j'ose croire que dans choisir ça, justement, c'est toi-même qui fais ton arsenal de comment tu veux aller de l'avant puis qu'est-ce que tu as envie d'approfondir. T'as mentionné, Isabelle Hubert, juste mentionner que j'ai entendu d'un professeur du bac que t'étais comme la prochaine Isabelle Hubert de l'écriture. Puis je voulais comme le lâcher maintenant, mais ça m'a été dit. J'étais comme, c'est dit. Puis ben, c'est ça, à l'intérieur du collectif, comment ça a évolué, la volonté de créer? T'sais, est-ce que vous êtes comme, vous étiez assis, genre, on fait un collectif, ou c'était comme... Ah, j'aime donc bien travailler avec ces personnes-là. Qui, ça a été quoi votre dynamique?
Étincelles se passent beaucoup autour de brunch au sein de Vénus à vélo. On aime beaucoup manger. Fait que la majorité de nos rencontres...
nos heures du jour, c'était le menu. l'objet, le titre. Non, mais sans blague, c'est né dès le conservatoire, parce que même si c'est une école axée sur la création, c'est une création qui est dirigée. Puis, je pense qu'on avait déjà des pulsions inassouvies. Puis aussi, Maud puis moi, on était dans un groupe majoritairement masculin dans notre classe. Puis, je pense qu'on a, on a manqué un peu de cette sororité, de cette féminité-là. Fait que déjà, à l'école, on se voyait, on voulait, tu sais, fonder cette compagnie-là entre femmes. Puis, on voulait aussi que ça soit pas juste... avec d'autres interprètes, parce qu'on remarquait déjà au sein, tu sais, pendant notre école, qu'il y avait un fossé entre les gens qui étudiaient la scénographie, la mise en scène, puis ceux qui étudiaient le jeu,
puis une forme de rencontre. Oui, une forme de hiérarchie entre qui détient le pouvoir dans beaucoup de compagnies à Québec. Puis on avait envie de quelque chose qui était très équitable entre les gens qui réfléchissent à l'espace, à l'aspect visuel. Puis, mettons en jeu qu'on est un peu plus formé au niveau de... je sais pas comment appeler ça, là. C'est pas nécessairement la dramaturgie, là, mais des histoires. Mais, on voulait qu'il y ait vraiment un aspect visuel fort à nos créations. On avait proposé à Marianne et Marie-Lou, est-ce qu'elles avaient envie de partir une compagnie avec nous? C'était avec beaucoup de naïveté à ce moment-là. On avait travaillé ensemble, je pense, sur un laboratoire.
Oui, sur le laboratoire Untouched Land, alias Toi et ta solitude en sachet déshydraté, qui avait été présenté au Futul.
Wow! tout se rejoint!
Puis on trouvait qu'il y avait des atomes crochus, mais tu sais, ça aurait vraiment pu pas bien se passer.
Oui, mais tout projet, tu sais, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais tu sais, tout peut foutre le camp, comme peut être explosif et incroyable. Puis comment ça s'est passé toi et ton amour en sachet déshydraté, j'oublie le
terme. Ça a été, tu sais, c'est un show multidisciplinaire qu'on faisait aussi avec l'artiste Irka Hagenveilleux, qui est circassienne, musicienne et poète.
Puis à l'époque, c'était pas Vénus à vélo, c'était le collectif Les Bambines que Maud avait avec Irka.
Ouais, mais on était comme beaucoup des mêmes membres qui ont participé ensuite aux créations de Vénus à vélo. Wow. Mais oui, c'était vraiment des beaux premiers pas, là. Je pense qu'il y avait un espace qui était déjà dans le soin et l'approche collective de la création. Puis après, au sein de Vénus à vélo, c'est comme si on a eu beaucoup de réflexions sur comment est-ce qu'on avait envie de fonctionner, sur c'était quoi les directions artistiques qu'on voulait prendre. Et étonnamment, les quatre, on avait quand même envie d'aller dans des directions similaires. Mm-hmm. Tu sais, ce qui n'était pas... On avait eu évidemment ces discussions-là avant de fonder la compagnie, mais pas autant en profondeur qu'ensuite.
Oui.
Puis je dirais aussi que j'ai l'impression que pour nous, c'est la forme, c'est important, mais on admet de pas, disons, aimer ou... tu sais, on peut ne pas s'entendre sur... ou ne pas avoir dans nos goûts personnels les mêmes choses, mais il faut que l'œuvre transporte les mêmes valeurs, puis c'est ça qui est plus important.
Mm-hmm.
Que ça... transporte dans un visuel qui nous plaît moins individuellement, c'est pas grave. C'est
l'objectif.
C'est ça. Les retombées de ça...
correspondent à nos valeurs. Puis ça fait aussi qu'on se donne quand même une belle liberté. T'sais, on fait pas partie artistiquement de tous les projets de la compagnie. Parfois, on est vraiment plus là en soutien puis en direction artistique à certains projets.
Est-ce que ça fait qu'il y a, mettons, une tête plus forte dans un projet, mais que les autres peuvent venir donner soutien, œil, puis comme œil extérieur, ce qui fait que tu restes, que tu as ton idée principale, puis tu fonces avec ça, puis parfois vous vous retrouvez plus en mode OK, on travaille les quatre ensemble, bien, les trois ensemble. Comme, il y a comme un...
Mais on n'a jamais fait de création collective. Là. Ça n'a jamais été ça. Puis on en a fait ailleurs avec d'autres collectifs, Maud et moi d'ailleurs avec les Reines. Okay. Mais Vénus à vélo, c'est pas ça. On a toujours quelqu'un qui instigue le projet, puis après ça, les autres s'y greffent, puis ont chacune leur mandat.
Incroyable. Mais tu sais,
disons, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Marianne, qui a fait les décors des trois spectacles que j'ai écrits puis mis en scène. Puis c'est toujours... j'ai des envies, mais je laisse beaucoup de place. Là. T'sais, Marianne, elle arrive avec des propositions très fortes, Marie-Lou aussi. Puis moi, je fais ma mise en scène beaucoup en fonction de ce qu'elles me disent. Ah. Puis des fois, ça fait « je ne serais pas capable ». Puis elle fait « non, non, tu vas être capable, tu vas trouver un moyen ». Mais après, il y a aussi toutes les contraintes budgétaires.
Certainement.
Oui, le rapport, on essaie de briser ce rapport-là de force. Ce n'est pas parce que je suis à la mise en scène que... je vais lui dire comment je veux que le décor soit.
Non.
Ça va être un échange, puis ça va être plus riche comme ça, parce que c'est son travail.
Elle est professionnelle dans ce qu'elle fait, justement, scénographie. Le scénographe a un œil que, pas que tu n'as pas, mais que pour elle, la voit différemment le monde.
Mais quoi. Je pense qu'il y a des metteurs en scène qui l'ont plus que moi. Moi, j'ai pas cette...
Oui. Puis à l'intérieur de ça, justement, vous parlez que vos projets retombent dans des valeurs. C'est quoi les intentions du collectif? C'est quoi les intentions que vous voulez véhiculer? Qu'est-ce qui vous tient?
C'est une bonne question. Puis je pense que on le définit différemment d'année en année aussi. Là. Il y a des choses qui se précisent, il y a des choses qui se modifient. Quand on a fondé la compagnie, on a marqué qu'on avait envie de travailler autour d'histoires d'intimité. Et de faire de la vulnérabilité une arme politique et radicale. Puis je pense qu'il y a beaucoup de nos projets qui s'inscrivent là-dedans, qui racontent des moments d'intimité intense. Il y a définitivement une vision féministe dans chacun des projets qu'on a menés jusqu'à présent. De représenter aussi des types d'intimité ou de vulnérabilité qu'on voit qui sont peut-être moins racontés de manière traditionnelle?
Ben oui, je pense qu'il y a un lien entre tous les sujets qu'on aborde, puis c'est certainement des choses qui peuvent aussi rendre mal à l'aise, rendre inconfortable, qu'on préférait ne pas mettre au grand jour. T'sais, on a parlé de santé mentale... On a parlé de regrets maternels, on a parlé de construction non atypique de famille avec le projet audio parentèle de Maud. De mettre de l'avant des réalités plus méconnues, puis aussi qui touchent particulièrement, c'est ça, les femmes.
Puis, fait que si j'essaie de bien le saisir, c'est un peu d'offrir à l'imaginaire de femmes ou d'hommes, peu importe. Je pense que vous touchez quand même tout le monde, si on lâche la dichotomie. Vous touchez vraiment, je pense, à l'intérieur de l'imaginaire, puis justement, vous créez un genre de chemin qui dit, hey, ben, peut-être que ça se peut comme ça, puis que ça, c'est une réalité qui existe. Mm-hmm. Fait qu'il y a dans cette part-là...
Ouais. Mais tu vois, j'ai encore l'impression que c'est des choses qui sont... pas à définir, mais on n'a pas tout le temps mis les mots dessus. Mm-hmm. Puis pourtant, quand, mettons, on sélectionne des projets qu'on veut mener avec la compagnie, ou c'est comme si on s'entendait souvent là-dessus. Puis c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais eu à mettre des mots concrets autres que quand on est en recherche de financement, mettons. Mais sinon, on ne sait pas encore... On n'a pas fait, mettons, une liste de valeurs, de c'est quoi les valeurs fondamentales de la compagnie. Ça pourrait être un exercice intéressant, mais on ne s'y est pas penché encore là-dessus.
Mais à l'intérieur des projets, c'est ce qui est véhiculé, en fait. Vous n'avez pas besoin de le définir, mais ce qui en sort à la fin, ça définit quand même des nouvelles réalités qui existent, qui peuvent nous faire sentir comme, OK, c'est valide dans le fond ce que je demande, ce que je veux, par exemple, avec parentèle, de vouloir justement d'être coparent sans nécessairement être dans le couple. C'est comme, c'est une réalité qui existe de plus en plus dans en fait, elle existe déjà dans les enjeux LGBT, tu sais, puis on travaille justement à avancer ça, mais d'offrir cette vision-là avec un aspect documentaire, puis de voir, genre, comment tu as vécu ça au travers ça.
Oui. Oui, d'aller chercher peut-être, c'est ça, des récits qui nous manquaient.
Oui.
Parce qu'en effet, parentèle, moi, ça venait vraiment de ça, là, comme j'avais envie d'entendre des histoires qu'on m'avait jamais racontées. Mm-hmm. Puis je sais que quand tu écris La délivrance, Rosalie, il y avait ce désir aussi là, de mettre en scène un accouchement, mais pas comme on nous le raconte normalement.
Oui, oui. Puis de mettre en scène la nudité avec l'œil d'une façon qu'on la voit moins, qui n'est pas dans la sexualité ou même l'érotisme, même s'il y en a certainement, mais oui. Puis ça reste qu'on est des comédiennes, tu sais, qu'on est formées comme interprètes, fait que moi, j'ai toujours ce souci-là de donner de la matière intéressante puis nouvelle aux femmes qui vont jouer pour nous.
Oui, parce que, ben, je veux dire, j'avance dans un baccalauréat qui m'apprend plus l'histoire et définitivement, les personnages qui étaient des femmes ont été complètement négligés par tout le monde qu'ils ont construit. Tu sais, mais en fait, ça se rattrape avec le temps. Puis je pense que justement, il y a un bel espace pour justement leur donner une complexité.
Ouais.
Sur le collectif, justement, je me demandais comment votre processus de création. Il y a une personne qui a une idée, vous la pitchez, vous en discutez, puis vous arrivez à produire ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a plus d'étapes? Est-ce que vous passez par les laboratoires?
Souvent, ça va mijoter davantage. On aime bien que la personne qui a un projet à porter fasse une première étape en solo, peut-être, ou puisse le développer de façon individuelle. Puis après, on voit si ça correspond à ce que la compagnie fait. Pour pas non plus créer des œuvres pour alimenter la compagnie. En tout cas, dans les dernières années, ça a été, pour moi, disons, j'ai une idée de spectacle, je commence à esquisser mon plan, esquisser mes personnages, écrire quelques scènes, puis je présente quelque chose de pas abouti, mais quand même la proposition assez franche.
Oui.
Puis là, on fait « OK, est-ce que ça correspond au désir? » Puis est-ce que les autres ont envie de s'impliquer dans ce projet-là?
Mais jusqu'à présent, il y a tout le temps eu des étapes, soit de laboratoire, soit de résidence d'écriture, soit de lecture publique qui ont eu lieu avant que, mettons, une de nous propose le projet à la compagnie.
OK. Pour la solidifier?
Mais c'est pas quelque chose, tu sais, je pense qu'on est aussi des créatrices qui ont... c'est comme si, ouais, moi, je sentais comme le besoin de valider d'abord avec moi-même qu'est-ce que j'avais envie de faire comme projet.
Mm-hmm.
Puis après, de voir est-ce que ça s'inscrit dans le mandat de Vénus à vélo ou pas.
OK, ouais.
Mais ça va peut-être, tu sais, c'est pas quelque chose qui est figé dans le béton, là, c'est sûr que... Ça se peut que des fois, on fonctionne différemment, mais jusqu'à présent, ça a donné que c'était beaucoup ça.
Puis moi, dans mon expérience personnelle, quand je partage un projet trop tôt à des gens, puis que j'ai déjà un regard extérieur, souvent ça meurt. C'est comme si j'avais...
T'as épuisé un peu le contenu.
Pas épuisé, c'est juste que c'est trop fragile encore pour être montré à l'extérieur. Fait qu'il faut comme que ça ait sa propre... son petit jardin secret dans ma tête, puis que ça... Puis là, après ça, quand je suis satisfaite puis que je suis capable de le défendre,
oui.
Là, je peux en parler aux autres.
Ah oui. Oui, c'est très sensé comme réflexion. Oui.
Puis aussi, bien évidemment, de façon très, très concrète et monétaire, c'est plus avantageux de fonctionner comme ça, de par petite étape. Parce que si tu veux déjà tout de suite aller faire ton spectacle, bien, t'as pas assez de sous au moment de la production pour faire ta recherche. Tu sais, c'est bien de vraiment sectionner, en tout cas.
Oui. J'étais pas... Fait qu'un peu, il y a un effet boule de neige. Fait que tu commences tranquillement avec des petites présentations. Par exemple, passer au Futule, faire des juste faire une petite scène ou voir dans un laboratoire, d'essayer. Après ça, peut-être d'essayer genre les festivals jamais lus ou comme une résidence d'écriture aussi, tu sais. Puis éventuellement, quand ça fonctionne, tu sais que ton projet est sur des pylons puis tu peux... commencer à construire.
Mais c'est aussi plus viable parce qu'au lieu d'avoir, mettons, un salaire sur un an, c'est possible d'aller chercher différentes sources de revenus au fur et à mesure de la création qui se passe, par exemple, sur 3 ans.
Oui.
Fait que ça aussi, tu sais, puis évidemment, il n'y a personne qui fait de l'art pour l'argent, je crois, mais il faut quand même, on tente d'en vivre. fait que, je pense que ça, c'est quelque chose qui nous a permis de. Un peu mieux vivre de la création, là, d'aller chercher différentes étapes de construction de projet.
C'est une bonne stratégie. Je ne l'avais jamais entendu avant. Je voulais passer peut-être aux œuvres. L'œil particulièrement, c'est, je pense, c'est une œuvre. Mais en fait, je l'ai vue deux fois. Je l'ai vue une fois au premier acte, puis une fois au périscope. Mm-hmm. Et je suis encore happé. Chaque fois qu'elle termine, je termine en pleurs. Oh. Je sais, simplement pour vous dire. Donc, en fait, dans l'œil, on a la rencontre d'une artiste, comment je dirais, une doctorante, en fait, premièrement, et d'une artiste, ben, plus une qui fait du modèle vivant. Mm-hmm. Puis ces deux, en fait, protagonistes vont vraiment clasher sur leur vision de l'image corporelle qu'elles ont d'elles-mêmes. Et il y a comme un rapport de force qui finit par s'égaliser et il y a une rencontre et une écoute qui se place. Puis je me demandais comment est-ce que vous pensez que ça peut affecter, pas le public, mais comment ça peut apporter un changement chez les gens de voir une telle acceptation sur scène ou une prise de conscience?
Bien, on a eu la chance d'avoir beaucoup de retours du public pour ce spectacle-là, puis aussi à chaque diffusion qu'on a fait, donc la première acte en février 2023, puis celle qu'on a fait au Périscope tout dernièrement en décembre, on a fait des représentations en médiation spéciale, donc c'était des groupes de femmes qu'on avait ciblées, puis ensuite on a eu des échanges avec ces personnes-là. Puis on a pu voir comment ça peut faire du bien de voir des femmes montrer leur corps, puis les assumer, puis le faire sans malaise, puis sans gêne. Puis ça peut être libérateur, ça peut donner envie soi-même de re-questionner son rapport avec sa nudité.
Oui.
J'avais un peu envie que ça fasse... Tu sais, moi, c'était mon objectif de... Quand je vais dans un vestiaire de piscine publique, je suis toujours tellement... bien, puis ravie de voir toutes ces femmes, souvent les femmes plus âgées, complètement nues, dans la douche.
À l'aise.
Tellement à l'aise, puis personne se reluque, là. On peut avoir des conversations avec des inconnus en étant nues. Puis en tout cas, moi, je me dis, ah, mais si on pouvait faire vivre ça sur scène, qu'est-ce que ça ferait? Fait qu'il y avait ça comme inspiration qui est très drôle, là, qui est de mes petites séances de natation personnelles. Mais... Oui. Puis aussi, je pense, pour les hommes, de soi-même pouvoir regarder ces corps-là sans être dans une dynamique de séduction ou de sexualité. Ouais. Je sais pas, Maud, de toi, comment tu l'as vécu, parce que Maud a aussi fait la direction d'intimité sur ce projet-là.
Oui.
Mm-hmm. Mais c'est drôle. Face à ta question... C'est pas nécessairement la nudité qui me vient en tête en premier là, pour la réception du public. Il y avait beaucoup de commentaires qui m'ont beaucoup touchée, que des spectatrices, mais particulièrement des spectatrices qui nous ont dit qu'elles avaient eu l'impression d'avoir été vues suite à la représentation.
Wow!
Puis ça, pour moi, c'était comme... c'était quelque chose d'important. Puis suite aux deux activités de médiation aussi qui ont eu lieu, c'était ressorti que ça avait aussi un potentiel guérisseur d'entendre ces discours-là puis de voir le processus de sororité qui se crée sur scène. Fait que je pense que c'est une des choses que je retiens de ces diffusions. Après, pour tout ce qui est du travail en costume de nudité... c'est sûr que c'est quand même c'est quelque chose qui prend du courage, je crois, de la part des interprètes.
Très, oui.
Parce que c'est vulnérabilisant de porter ces rôles-là dans ces costumes-là. Mais on a eu beaucoup de temps pour le travailler. Il y a eu une lecture d'abord où... C'est un travail plus d'interprétation, fait qu'il y avait comme tout déjà une acclimatation face à ce qu'il allait avoir à faire comme travail dans le corps.
Ouais.
Ensuite, on a eu des étapes, un laboratoire scénographique, et ensuite un laboratoire, et ensuite un choix premier acte, et ensuite une reprise au périscope. Puis j'ai eu l'impression que ce travail-là a maturé énormément de fois en fois. Aussi, à chaque étape, mettons que... qui se, entre guillemets, se passait bien. Ça donnait confiance face à la prochaine.
Oui. Puis aussi, peut-être dans... Je veux dire, c'est l'interprète qui... Mais les interprètes qui ont vécu ça, ça devait changer complètement leur... Je veux dire, leur psychologie, là, mais par rapport à elles-mêmes, puis comme ce rapport au corps elles-mêmes ont dû le vivre, genre, directement. Puis en plus, ils ont pu le transmettre à d'autres, justement, qui ont été touchés par ça. Mm-hmm. Fait que c'est comme... Il y a comme deux niveaux, je dirais, de transformation de psychologie. Mais puis peut-être par rapport justement au travail de direction de l'intimité, c'est un rôle que tu as récemment commencé à... C'est une voie que tu as envie d'emprunter puis que tu as envie de peaufiner. Puis à l'intérieur de l'œil, tu as été mentoré par quelqu'un pour bien faire ça, bien faire ça adéquatement.
Bien, parce que c'était... j'étais encore en formation à ce moment-là. Fait que oui, c'était tout un... Ça faisait partie de mon processus d'apprentissage. Puis aussi, bien, la direction d'intimité, ça se veut un rôle qui est le plus neutre possible au sein d'une production, ce qui était impossible, mettons, comme je suis aussi co-directrice artistique de la compagnie. Fait que quand on a réfléchi de est-ce que, tu sais, on jugeait que ce projet-là devait être accompagné en direction d'intimité, mais à ce moment-là, personne n'était formé à Québec pour en faire. Fait qu'avec ma mentor, Stéphanie Breton, on avait aussi réfléchi que si je travaillais sur ce projet-là, ben elle devenait, en plus d'être ma mentor, c'est-à-dire de me voir travailler, puis de m'accompagner quand j'avais des questionnements par rapport à la production, si jamais on réalisait qu'il y avait des conflits d'intérêts par rapport à mon double rôle, ben elle devenait aussi une personne ressource auquel les interprètes ou des membres de l'équipe pouvaient se référer.
Okay.
Mais ceci dit, t'sais, en travaillant sur l'œil, il n'est pas arrivé là, de conflit d'intérêts, mais moi, ça m'a quand même fait constater que c'était un double rôle qui ne pouvait pas vraiment coexister.
Oui.
Même si j'essaie de me retirer le plus possible de certaines décisions de production ou de direction pendant que je suis directrice d'intimité, il y a trop de potentiel conflit d'intérêts. Fait que c'est suite à ça, on moi, j'ai décidé que je n'allais plus avoir ce rôle-là de direction d'intimité au sein de Vénus à vélo.
OK, oui.
Fait que c'est ça.
Fait que, si je ramène à toi, Rosalie, quand tu as écrit la pièce, est-ce que tu avais en tête la nudité? Tu t'es dit, ça va arriver dans la pièce, je l'écris, puis...
Ah, c'était le moteur premier.
C'était le moteur premier.
Oui, d'accord. Tout à fait. C'était ça l'objectif. C'est ça aussi qui est avec ma démarche, c'est que quand j'écris à date, ben non, c'est pas vrai, il y a d'autres textes que c'est pas ça, mais je sais que je vais mettre en scène, fait que je fais tout en même temps. Mm. Je pense déjà à qu'est-ce que je veux que ça soit cette mise en scène-là, puis ça va être quoi le ton. Fait que c'est comme un travail déjà très, très global dès le début.
Okay.
Fait que je fais des choix d'auteur qui sont conséquents avec OK, mais là, à ce moment-là, c'est ça qu'on voit sur scène.
Oui. Donc, si je comprends bien, il y a comme une micro-révolution, quand même, non, ça commence à être gros comme révolution de... T'es une dramaturge, tu écris, tu dis, moi, c'est comme ça que ça va se passer. Puis, dans le concret, la directrice d'intimité vient consolider les besoins qui sont demandés par une écrivaine, puis voir le metteur en scène dépendant, pour arriver à ce que le spectacle se produise et qu'il soit... clair, sain, puis aussi, je ne veux pas dire choquant, mais qui fasse l'effet qui est voulu par l'écrivaine.
Mm. Ben, c'est vraiment comme si Rosalie écrivait une scène de combat. On engagerait quelqu'un pour qui est coordonnateur ou coordonnatrice de cascade pour pouvoir mettre en scène le plus fidèlement possible cette vision-là, tout en respectant les limites des interprètes. Fait que c'est vraiment la même chose que, mettons, la direction d'intimité va venir faire sur un spectacle. C'est de s'assurer qu'on puisse réaliser le plus possible la vision de la mise en scène, servir le projet, servir le texte, mais tout en respectant les limites des interprètes. Fait que c'est ça. C'est comme, selon moi, là, c'est quelqu'un qui facilite ce travail-là. De nudité ou d'intimité, de sexualité simulée quand on en parle dans des textes.
OK.
Ça nous permet souvent d'aller beaucoup plus loin parce qu'il y a des outils concrets qui sont apportés en local de répétition.
Plutôt que de dire « Ah, ça va arriver », puis genre « Non, il y a quelqu'un qui est là, qui va le faire.
Oui, puis c'est souvent, c'est improvisé ou c'est, base-toi sur toi, qu'est-ce que tu fais dans ton intimité, ce qui ne devrait pas, selon moi, être amené dans un espace professionnel.
Non.
Fait que c'est ça.
Wow.
Mais... Mm. On espère pouvoir travailler avec d'autres gens qui vont être formés éventuellement. Puis que Vénus Avello va pouvoir engager quand il va avoir ces besoins-là dans l'avenir.
Wow. Si dans l'avenir prochain, vous pouviez travailler avec un artiste ou vous aimeriez comme soit faire une création collective, qui vous aimeriez rencontrer ou amener dans votre projet?
Là, on rêve, genre...
Oui, on rêve. Ça peut être international, ça peut être à l'extérieur de la planète Terre. On est ouvert, là, comme...
Wow!
Ben là, moi, j'ai trip sur Monia Chokri, là, mais... Je sais pas, je pense pas qu'elle viendrait jouer à Québec.
Ben, on se rappelle qu'elle est passée aux Égyptes et Limoilou.
Oui, c'est vrai. Ben, c'est plus des gens qui m'inspirent, là. Monia... Toi, t'as Caitlin Prest, qui t'aime beaucoup.
Ben, qui est une artiste sonore que j'admire énormément puis qui m'inspire beaucoup dans ce... En fait, qui a été l'élément déclencheur de pourquoi j'ai eu envie de commencer à faire du son.
Oui.
Fait que oui, Caitlin Prest, qui a, entre autres, la compagnie Mermaid Palace, ou le podcast The Heart, okay. Puis qui fait des œuvres audio féministes et queer qui ont un quotient d'intimité absolument déstabilisant. Mais que c'est ça. Moi, ça m'a fait complètement tomber en amour avec le médium sonore. Mais c'est ça, j'ai comme beaucoup d'artistes que j'admire. Après, dans les possibles collaborations, on dirait que c'est souvent des gens plus proches de moi auxquels je pense. T'sais, on a envie de travailler avec la compagnie La Bouche, La Machine.
Qu'est-ce qu'elles font? Ou qu'est-ce qu'elles font,
La Bouche, La Machine? Elles ont fait le spectacle Alban.
Oui, ah oh mon Dieu. Oui,
à premier acte.
Absolument.
Puis on les a croisées. Ça a été aussi des collaboratrices, Marie-Ève Lucie-Gariepi et Odile Gagné-Roy, sur d'autres projets. Mais tu sais, ça, clairement, c'est quelque chose qu'on souhaite pour le futur.
Oui, c'est des femmes qui ont des approches un peu plus intellectuelles et formelles, ce qui est pas, tu sais, qui est comme l'autre pendant que nous, on a moins, là. Je pense qu'on est plus dans...
le senti, le vécu.
Le senti, l'instinct. Ouais. Mais pas qu'elles ont pas ça du tout, là. Au contraire, mais oui, j'ai l'impression qu'on se balance bien.
Oui. C'est un bon souhait. Je pense que ça pourrait être quand même cool voir vos deux collectifs ensemble. Mm-hmm. Je pense que ça pourrait sortir de manière intéressante.
Pis sinon, ça dépend des projets. T'sais, on a quand même une vision un peu... C'était clair qu'on s'est incorporé, qu'on voulait être une compagnie pluridisciplinaire. Mm-hmm. Là, on a, pour l'instant, surtout fait du théâtre. Il y a une œuvre audio qu'on a produite, mais on a envie éventuellement d'aller vers des choses qui s'approchent plus de l'installation, des arts visuels, d'explorer à nouveau le son.
Oui.
Fait que c'est sûr que ça va aussi nous amener à collaborer avec d'autres artistes qu'on admire dans d'autres disciplines que le théâtre.
Oui.
Puis c'est très excitant, là. C'est quelque chose qu'on a envie depuis les tout débuts. Fait que, à voir, ça aussi.
Ooh.
Ça, c'est intéressant. Puis là, je m'adresse peut-être aux gens, tu sais, qui...
Qui vont écouter. Ouais. Ben oui, on va avoir des auditeurs.
À la fondation d'une compagnie, si déjà les envies sont multidisciplinaires, de l'inclure dans la façon qu'on décrit la compagnie, parce qu'après, ça devient super important. La façon qu'on se nomme dans nos lettres patentes va déterminer si on peut accéder ou non à tel type de financement.
Fait. Uh-huh. Le nommer dès le départ, ouais. Qu'il y a une volonté de multidisciplinarité. Si vous aviez un conseil à donner aux futurs artistes, quelque chose de...
Moi, je pense que c'est important de travailler par petites étapes, puis de se laisser le temps de ne pas savoir, de ne pas être tout à fait satisfait, de laisser le travail se déposer. Puis ça peut être tellement stressant faire 3 jours de laboratoire, puis pas déjà avoir quelque chose de fini alors que c'est complètement impossible.
Mm-hmm.
Mais des fois, d'être 3 jours ensemble, puis de créer des liens, puis de trouver une belle image ou une belle réplique.
C'est suffisant.
C'est suffisant. Parce que tu as construit... la chimie du groupe, c'est aussi tellement important. Au final, on passe plus de temps en répète souvent qu'en jeu, qu'en temps de représentation.
Oui.
Puis ce temps-là, il est précieux, puis il faut que ça soit, ça fasse partie du plaisir, tu sais. En tout cas, ouais. Chercher le plaisir là-dedans, puis les rencontres.
Nice. Bon conseil.
Oui. Clarifier les attentes de chacun, chacune. En début de projet, se donner des outils pour pouvoir les mettre à jour au fur et à mesure. Tout ce que Rosalie a déjà dit, c'est vrai. Je pense que on aime beaucoup réfléchir à l'espace de travail.
Fait un peu un travail en amont, puis de un peu comme valider c'est quoi les attentes, puis qu'est-ce qu'on veut développer. Puis de ton côté, ça va être vraiment après un long moment à travailler, de faire un peu, prendre 2-3 pas de recul, apprécier ce qui a été fait, trouver ce que tu as envie de conserver. De, que c'est correct, c'est ça qui est sorti. C'est un peu ça, là. Ouais. J'ai-tu bien résumé?
Oui. Je pense que dans les attentes, ben, y a aussi, ça revient quand même à la notion de consentement ou de transparence, c'est-à-dire de mettre sur la table, dès le début, c'est quoi les objectifs du projet. T'sais, nous, on aime beaucoup travailler à budget ouvert aussi pour que les gens qu'on engage soient vraiment conscients, conscientes des conditions dans lesquelles ils et elles s'inscrivent. Dès le départ, d'être le plus transparente possible par rapport aux objectifs du projet, aux visions de mise en scène, tu sais, comme ça, c'est quand même des choses qui sont importantes pour nous. Puis que des fois, moi, quand je travaille en dehors de Vénus à vélo, ça me manque.
Ouais.
Mais c'est très personnel à ce que moi je recherche. Et je pense pas que c'est quelque chose qui...
C'est pas universel.
Ben non, mais c'est, clairement, c'est pas pour tout le monde. Puis non, c'est bien correct qu'il y ait des gens qui ont envie de travailler
mais comme tu le
autrement.
Dis,
mais...
C'est important, des fois, de savoir qu'est-ce qui se traîne derrière. T'sais, oui, des fois, tu as des attentes, mais comme... Ouais, c'est ça notre budget. Tu peux travailler avec nous, puis c'est ça qu'on va te donner. Puis genre, viens-t'en, tu sais. Puis si la personne, elle dit justement qu'elle travaille pas l'art pour l'argent, mais qu'elle est comme, ah, ouais, c'est un projet qui m'intéresse... Ça donne le goût de travailler avec vous, tu sais.
Mais c'est aussi, puis je pense que ça peut enlever de potentielles frustrations quand c'est abordé. Puis tu sais, c'est parce qu'on a aussi fait des erreurs dans le passé, là, que maintenant on travaille comme ça. Ouais. Fait quoi, on est dans un milieu qui vit un manque de ressources flagrant. Fait que je pense qu'on a besoin d'autant plus de transparence pour être certain, tu sais, qu'il y ait le moins de frustration possible par rapport à ça, puis que les gens aussi puissent verbaliser quand ils remettent en question certains choix, par exemple, dans les budgets qui ont été faits.
Oui. C'est un très beau conseil. J'aime ça. Puis là, c'est le moment plug. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite? C'est quoi vos prochains projets? Les sorties de Vénus à vélo, les projets individuels? Nommez-les.
On ne peut pas toutes nommer.
Non, c'est ça. Les dévoilements ne sont pas encore faits.
Ce que vous pouvez.
Bien, on va avoir un laboratoire l'année prochaine.
Yeah.
Et on ne peut pas dire où et quand.
D'accord.
Pour un nouveau projet.
Ouais.
Qui va être une coproduction. Donc, ça, on est très excités avec une compagnie qui a plus d'expérience. Fait qu'on va apprendre plein de choses encore. Puis, ben là, on a envie de faire du théâtre, mais aussi encore de l'art sonore.
Oui.
Puis on a un projet sur la table aussi on n'a pas eu la confirmation des financements, mais on a envie de faire une réflexion stratégique sur le bien-être au sein d'une compagnie de création subventionnée à projet, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'employés à temps plein qui peuvent assurer comme une espèce de continuité entre les différents projets.
Oui.
Fait que ça, peut-être que ça aura lieu aussi l'année prochaine, qui est vraiment pas un projet de création, mais un projet plus de réflexion.
Ah.
Mais c'est tout ce qu'on peut dire.
Et peut-être une reprise de spectacle.
Peut-être.
Reprise de spectacle. Puis, est-ce qu'il n'y a pas, genre, l'œil qui va être mis comme en livre?
Ah oui, ça, je peux le dire, par exemple. J'ai pas la date exacte, mais oui, l'œil va être publié aux éditions de l'Instant même, dans la collection Instant Scène, dans les prochains mois.
Incroyable.
Ouais. Ça, c'est super. Pour moi, c'est la première fois que je vais avoir un ouvrage tangible à partager.
J'ai envie de crier de joie, mais waouh, incroyable. Ben, Maud, Rosalie, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. J'étais très contente de faire votre rencontre.
Merci à toi. Puis bon festival.
Oui.
Bonne ébullition.
N'oubliez pas d'aller visiter lefutule.ca pour avoir accès aux autres épisodes du balado Levé de rideau gratuitement, ainsi que pour découvrir la future programmation. Cette émission a été réalisée avec l'aide du comité organisateur de la 10e édition du Festival de théâtre de l'Université Laval, c'est-à-dire Eleonore Gosse-Franceschini, Noémie Lavertu, Valentine Sanson et Clara Bruno. François Coulombe-Rozon était chargé de la production du balado. Nous tenons aussi à remercier Victoria Pelletier au montage, Adèle Falardeau à l'idéation et Louis-David Gingras pour la musique originale.